Cap Sport, la rediff.
Les 23e Jeux Olympiques d'hiver ont vécu, ils ont pris fin dimanche à Pyeongchang, en Corée du Sud. Le bilan helvétique est excellent, avec 15 médailles en poche, il a même dépassé les attentes. Mais qu'en est-il de l'ambiance sur place, de l'organisation de ces JO et de la ferveur au sein du peuple coréen? On se plonge au cœur de cet événement ce soir avec le supporter suisse le plus connu, le franc-montagnard Ernest Gigon, ainsi que les deux journalistes qui ont été nos envoyés spéciaux sur place, Yann Esler et Joris Repon. Et on évoquera également ce soir la tenue des championnats de Suisse de tennis de table ce week-end à Neuchâtel. Ce sera dans la deuxième partie d'émission. Focus sur ce sport et son développement dans l'art jurassien. Bonsoir, on ouvre donc le grand livre des souvenirs aujourd'hui dans Cap Sport. Retour sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang avec trois personnes qui les ont vécues de l'intérieur. On va se laisser guider par un supporter hors du commun, le franc-montagnard Ernest Gigon. On peut presque parler d'une des figures des JO, Mathieu Schaffner.
Oh oui, Ernest Gigon, il a vécu en Corée du Sud ses 9e Jeux Olympiques, rendez-vous compte. Il connaît donc à la perfection les rouages de ce grand rassemblement. C'est presque certain que vous l'avez déjà vu un jour ou l'autre à la télévision. Armé de son grand drapeau suisse et très souvent en t-shirt au milieu de la neige, notre costaud barbu a essaimé les épreuves à Pyeongchang. En 9 éditions, il s'est aussi lié d'amitié avec des familles d'athlètes suisses, voire carrément avec des sportifs de notre pays. Et puis les JO, il commence à les connaître comme sa poche, bien évidemment. L'habitant du Cerneveux-Île a ainsi posé un regard averti sur cette toute dernière édition.
Et puis on accueille également ce soir nos deux envoyés spéciaux de retour au pays après la couverture des Jeux Olympiques. Yann Esler, Joris Repon, bonsoir.
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 Alors, pour accueillir des Jeux Olympiques, il faut bien sûr un pays. On va faire un peu plus connaissance avec la population sud-coréenne pour commencer. Et c'est Ernest Gigon qui nous l'a décrit à sa manière.
La population locale, c'est vrai qu'on ne la voyait pas beaucoup. J'entends, c'était des gens qui étaient pour eux. J'entends, ils étaient entre eux. Ils avaient fini, rentraient, on ne les voyait pas. Après, bien sûr, il y avait quand même toujours quelques membres qui venaient voir le sport, suivant quel sport, il y avait quand même un petit peu de leur présence sur place. Ils étaient contents, ils appréciaient tout le monde aussi, mais ils sont pas vraiment beaucoup avec les autres. Ils sont pour eux, c'est des gens qui sont pour eux. Ils ont déjà une langue vraiment très spéciale qu'on n'arrive pas à comprendre.
La langue très spéciale, Yann Esler, vous confirmez, on n'y comprend rien?
Je peux pas dire que c'est complètement spécial. C'est une langue étrangère. De toute façon, quand on arrive dans un pays dont on ne parle pas la langue, tout paraît bizarre. Mais je dois dire que il y a quand même passablement de personnes qui parlaient anglais. Il faut se dire que dans l'organisation, il y avait beaucoup de jeunes gens qui venaient de Séoul, qui étaient parfaitement, voire un peu bilingues. Et je dois dire que l'anglais a été le mode de, qu'est-ce qu'on va dire, de langage le plus utilisé.
Et puis on a également entendu Ernest Gigon dire que les Sud-Coréens restent un peu entre eux. Joris, c'est difficile d'aller à leur rencontre? Ils ont un peu de la peine à se mélanger?
Non, au contraire, j'ai trouvé que... Alors c'est sûr que c'était des gens de l'organisation et que la population d'elle-même, on n'a pas forcément eu contact avec elle, mais ces gens-là, en tout cas, étaient les premiers à venir vers nous pour nous aiguiller lorsqu'on était un peu perdus ou même quand on allait manger, ils étaient souvent ici. Moi, j'ai trouvé au contraire que c'était des gens qui étaient très abordables et toujours très, très souriants, très serviables.
Au niveau de l'enthousiasme autour de ces JO, vous avez senti de la fierté dans le peuple coréen d'organiser cette 23e édition ?
Oui, alors c'est vrai qu'on avait, lors de la première semaine, quelques doutes, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, vous l'aviez peut-être aussi vu à la télévision dans les tribunes, mais c'est vrai qu'il y avait aussi peut-être le fait qu'il n'y avait pas encore forcément les vacances ou les écoles qui pouvaient envoyer des jeunes sur place. Mais par contre, durant la deuxième semaine, il y a eu énormément de monde, que ce soit au ski, que ce soit dans d'autres disciplines, et il y a eu véritablement beaucoup d'ambiance. Alors c'est sûr que ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait, notamment sur la ville côtière de Gangneung, où là, il y avait le short track, notamment, et le patinage de vitesse, qui sont les deux sports nationaux en ce qui concerne les Jeux d'hiver. Et là, je peux vous dire qu'il y avait énormément d'ambiance. On n'a pas été dedans, mais je suis passé souvent devant la patinoire. Il y avait des écrans géants qui étaient exposés. Et on avait l'impression de voir l'équipe de Suisse à l'Euro ou à la Coupe du Monde de football.
Oui, effectivement, ces spectateurs qui ont manqué dans certains rendez-vous. Eh bien, Ernest Gigon a constaté, lui aussi, la même chose sur place en Corée.
tous les sports de glace, je pense que les Coréens étaient bien représentés et en grand nombre, quoi, j'entends. Mais par contre, il manquait du peuple, il manquait des spectateurs sur les sports de ski alpin, sur les nouveaux sports qui sont le freestyle et tout ça. Ça manquait de spectateurs.
Alors, du monde sur les épreuves de glace, vous l'avez dit, Joris, il manquait un peu de monde sur les épreuves de ski alpin, c'est votre constat également ?
Oui, alors c'est sûr que le ski alpin, vous l'avez peut-être vu notamment à la descente, il n'y avait quasiment personne dans les gradins. Ça a été un petit peu différent encore une fois en deuxième semaine. Moi, j'ai pu assister au combiné alpin avec la victoire notamment de Michel Guizine. Et là, il y avait beaucoup d'ambiance dans le public. Alors, il faut dire aussi que le lieu où il y avait les épreuves de vitesse, c'est un endroit qui était très très loin par rapport au centre, que ce soit à Alpensia ou autre. Et même pour nous, c'était relativement long à aller en navette. Et c'est sûr que là, les Coréens qui étaient déjà de base peut-être moins intéressés par le ski alpin, eh ben, ils ne se sont tout simplement pas rendus sur place. Mais par contre, lors des épreuves techniques, là, il y avait du monde. Et je pense que Yann pourra dire la même chose, parce qu'il a assisté aussi à ces compétitions à Yongpyeong. Et il me semblait en tout cas que la population coréenne était présente.
Bah Yann, justement, Yann Esler, votre vision sur cette fréquentation du public au JO ?
Alors je suis tout à fait Joris dans ce qu'il a dit. Il faut dire que la deuxième semaine, la semaine qui est arrivée après le nouvel an chinois, était vraiment une semaine où on avait l'impression que les gens, les locaux avaient les vacances et venaient beaucoup plus volontiers assister à d'autres sports que les sports nationaux que sont le patinage de vitesse ou le short track. Chose extrêmement étonnante, c'est une nouvelle discipline, le team event en ski alpin, qui est pas forcément une discipline qui était, on va dire, forcément très bien vue. C'est un peu la discipline nouvelle. On a l'impression qu'on a rajouté un peu une discipline comme ça en ski alpin pour les aficionados. Par contre, les locaux ont beaucoup, beaucoup apprécié. Je dois dire que durant ce team event, c'était rempli. Il y avait très beaucoup de Sud-Coréens qui étaient très friands, en fait, de cette compétition. Donc, je dois dire que ça peut être aussi au niveau culturel, des fois, certains types de compétitions peuvent attirer plus ou moins différents types de populations.
Vous l'avez senti comme une déception sur place, peut-être dans l'entourage direct du CIO, que le public n'ait pas pleinement répondu présent ?
Pas forcément. Je dois dire aussi qu'il y a eu quand même quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté, c'est que la première semaine, il y a eu des températures qui étaient des températures vraiment négatives, extrêmement poussées. On avait quand même des moins 20 degrés avec du vent, ce qui nous faisait des sensations à peu près de moins 28, moins 30 degrés. Alors imaginez rester deux heures en bas d'une descente ou d'un événement, par exemple, alpin. C'est pas forcément quelque chose qui fait rêver. Et même certaines personnes peuvent se dire des fois, genre non, on n'a pas envie de tomber malade, même si on a des billets. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même des conditions qui étaient dantesques. On a eu des reports quand même, reports de la descente messieurs, de la descente dames. C'était quand même quelque chose, super G messieurs et descente dames, c'était quand même quelque chose de spécial durant cette première semaine.
Et les Suisses dans tout ça, est-ce que nos compatriotes ont fait le déplacement en Corée du Sud ? Eh bien la réponse d'Ernest Gigon.
La représentation suisse en Russie et en Corée était faible, moi je dirais.
Alors Ernest Gigon, qui a connu 9 Jeux Olympiques avant Pyeongchang, c'est plus facile pour lui de comparer. Mais est-ce que pour vous, Yann Esler, les Suisses n'étaient pas présents, pas assez présents du côté de la Corée du Sud ?
Bah, on va quand même dire que la Corée du Sud, c'est pas la porte à côté. Non plus, il faut se dire que Pyeongchang, c'est pas forcément la destination qui fait rêver. Lorsqu'on vous dit, par exemple, les prochains Jeux, c'est Pékin, Tokyo ou Pékin, Pyeongchang, ce n'est pas Séoul, donc on ne connaît pas vraiment. Je veux dire que même nous, en tant que journalistes, on arrivait là-bas, c'était un peu le point d'interrogation. On savait pas où on mettait les pieds. Donc je pense que pour pas mal de personnes, c'était un peu... n'ont pas forcément été attirés directement pour y aller. Par contre, pour le public suisse, je ne suis pas forcément de l'avis de Ernest Gigon parce que j'ai quand même vu pas mal de supporters suisses qui étaient présents. On va dire que c'était surtout des familles ou des proches des athlètes. Mais moi, j'étais étonné de voir quand même un bel engouement, puis quand même passablement de drapeau suisse pour suivre nos athlètes, alors que je ne m'attendais pas forcément à en voir autant dans les tribunes.
Donc, à bien vous comprendre, Yann, l'ambiance était quand même au rendez-vous.
Je dois dire que, comme on disait tout à l'heure, la première semaine a été une semaine, on va dire, extrêmement tendue. Par contre, la deuxième semaine, là où il faisait un petit peu plus chaud et les gens se sont déplacés en masse, il y avait une très belle ambiance. D'ailleurs, Joris pourra vous dire, une des dernières compétitions auxquelles il a assisté, c'était le slalom. Il me semble qu'il y avait une ambiance qui était assez, assez folle.
Ouais, on va y venir en écoutant peut-être juste avant Ernest Gigon qui nous décrit une ambiance typiquement olympique comme on peut les connaître.
C'est pas à comparer avec une autre ambiance de sport, de football ou de hockey en Suisse où les gens sont conditionnés, l'équipe adverse est presque séparée par un grillage, tandis que là, vous êtes assis à côté de Canadiens, à côté d'Allemands, ou avec tout le monde, vous êtes au ski alpin, à côté de vous, vous pouvez avoir des Suédois, vous pouvez avoir des Norvégiens, et puis tout le monde est dans la joie, tout le monde est content, chacun agit son drapeau, et puis tout le monde crie hop, hop, hop au moment où le concurrent passe, quoi, j'entends. C'est vraiment extraordinaire.
Extraordinaire, à en croire Ernest Gigon. Il n'y a vraiment pas d'animosité durant les JO, Joris ?
Non, en tout cas, nous, on ne l'a pas du tout senti. Je crois que c'est vraiment un des points clés, des points essentiels des Jeux Olympiques, que ce soit l'été ou l'hiver. C'est vrai que vous supportez un pays avec les drapeaux, etc. Mais au final, c'est vrai que vous venez voir le sport, la compétition, et ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi en Corée du Sud. Une ambiance très, très bon enfant. Il n'y a eu absolument aucun souci au niveau de la sécurité. J'ai pas eu vent qui a eu des bagarres ou autre. Même, voilà, quand on parle de hockey sur glace, où on peut des fois imaginer ceci, mais véritablement, je suis du même avis. Ça a été véritablement bon enfant, et ces jeux, pour ceci, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir à voir.
Mais c'est quand même assez extraordinaire parce que malheureusement, il y a plus en plus de violences qui entourent le sport. Il suffit de repenser par exemple aux dernières Euros en France. Il y a beaucoup de préoccupations également pour la prochaine Coupe du Monde de football en Russie. Comment on explique ça, qu'aux Jeux Olympiques, tout se passe bien ? C'est un autre public, c'est différent, c'est une autre ambiance, Joris ?
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, je pense que la première des choses, c'est que ce ne sont pas forcément des sports qui où vous devenez peut-être nerveux ou autre, comme par exemple un match de football où vous allez supporter un club. Là, c'est quand même très différent. Une descente de ski, vous allez forcément encourager les Suisses. Mais si c'est un Autrichien ou un Américain qui gagne, vous serez peut-être même content suivant comment ça s'est joué, comment ça a fonctionné au niveau du déroulement. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à ça. Puis dans ces sports-là, il n'y a pas du tout de mouvement de hooliganisme ou autre comme on pourrait l'avoir dans d'autres sports. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait aussi que les Jeux Olympiques sont toujours quasiment réputés pour être bon enfant.
Alors, venons-en peut-être au point noir, au côté moins glamour de ces Jeux Olympiques. C'est en tout cas l'avis d'Ernest Gigon qui évoque ici la problématique des transports.
Je suis allé voir un match de hockey Suisse-Canada. Le match se terminait vers 11h15. Le temps de sortir de la patinoire, ça faisait 11h30 pour arriver à la station de bus. Et après discussion, on vous envoie d'un bus à l'autre et puis en cherchant un peu plus loin, on vous envoie à l'information, puis à l'information on vous dit « Ouais, mais le dernier bus, il est parti à 11h ». Donc, le match étant terminé, il n'y avait plus de bus qui remontait sur le site de la Maison Suisse, où moi j'avais mes bagages qui étaient posés là, où j'avais mes effets personnels, quoi, j'entends. Donc, je devais dormir là-haut, quoi.
C'est quand même assez hallucinant d'entendre ce récit. C'était la catastrophe, Yann, sur place ?
Alors du côté des médias, on va dire qu'on a quand même été bien servi au niveau des shuttles, des navettes. C'était assez, on va dire, il y avait passablement de distance, mais c'était assez bien desservi. Par contre, au niveau du public, c'est vrai qu'on n'a pas pu forcément se rendre compte si c'était bien ou mal organisé. Par contre, pour revenir sur ce que disait Ernest Gigon, il logeait à Yongpyeong, qui est une station alpine en guillemets, même si elle est à faible altitude. Il faut se dire, c'est un peu comme si on devait rentrer, par exemple, il se trouvait, je sais pas, imaginons Sion 2026, il se retrouve à Sion, puis il doit remonter, je sais pas, à Zinal ou dans une autre de ces stations à la fin de la soirée. Est-ce que forcément il y aura peut-être quelque chose, ou est-ce qu'il faudra prendre un taxi? C'est là la question qu'il faut se poser. Mais c'est vrai qu'au niveau des supporters, on n'a pas pu se rendre compte si c'était bien ou mal organisé. Par contre, pour nous, en termes journalistiques et en termes de médias, c'était très très bien organisé. Tous les soirs, on pouvait rentrer à notre hôtel qui était situé bien sûr à l'autre bout de la ville côtière, donc à peu près à 80 km. Ça faisait tard, mais finalement on y arrivait.
Bon, après avoir évoqué ce petit point noir, on va en venir à un aspect nettement plus positif, nettement plus joyeux. Les athlètes suisses ont brillé, hein, 15 médailles récoltées en Corée du Sud, et visiblement, il y a eu un lien assez fort entre le public et les athlètes, en tout cas à en croire Ernest Gigon.
En principe, les athlètes, quand ils viennent à la maison en Suisse, une fois qu'ils ont fait tous les interviews et tout avec la presse, ils sortent et ils viennent se mêler au public directement. C'est aussi leur manière de remercier leur public qui s'est déplacé pour eux, soit les fans clubs, soit les gens qui se sont déplacés, les spectateurs qui sont là, qui sont quand même déplacés indirectement pour applaudir nos sportifs suisses. Quand ils ont une médaille, ils ont aussi le plaisir de les voir de tout près, donc on arrive à les approcher, on arrive à les féliciter, et puis moi je pense que j'ai quand même une vingtaine de signatures sur mon drapeau, d'athlètes qui ont ou fait des médailles ou participé à ces Jeux Olympiques, avec ou sans médaille, donc de toute façon c'est que des bons souvenirs pour moi.
Yann Esler, vous partagez également cette proximité entre les supporters et les athlètes suisses ?
Oui, c'est ça qui est fantastique, en fait, avec ces Jeux Olympiques, c'est qu'on a véritablement un mélange, on va dire, supporters et athlètes. On le voit aussi, par exemple, à la fin d'une compétition, lorsque j'ai vu, par exemple, la médaille de bronze de Fanny Smith, où Ernest Gigon était d'ailleurs présent dans le public. Elle est sortie ensuite de la zone mixte où elle avait fait ses interviews, et là, il y a toute sa famille qui l'a accueillie. Il y avait tous les supporters qui étaient vers elle souriante, prenait des photos, a signé un ou deux autographes. C'était vraiment quelque chose de sympathique. Puis on parlait de la maison suisse aussi, c'est quelque chose qui est très bien organisé avec ces médailles qui sont remportées par le camp suisse. C'est que le soir même ou le lendemain, ça dépend de l'heure, sont organisées en fait une réception à la maison suisse où les athlètes viennent et partagent un moment avec le public, présentent leurs médailles, et c'est toujours extrêmement sympathique de les voir de très près, parce que c'est vrai que dans la plupart des sports maintenant, c'est très très dur d'approcher les athlètes si on n'est pas accrédité ou si on n'est pas un officiel.
Yann Esler, Joris répond. Vous avez été nos envoyés spéciaux en Corée du Sud. Merci d'avoir été ce soir en direct dans Cap Sport pour partager un peu cette expérience. Et puis, merci de nous avoir dévoilé donc les coulisses un peu de cet événement. On vous souhaite un très beau week-end.
Merci à vous.
Bon week-end, merci.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Allez, on empoigne à présent une raquette direction Neuchâtel pour la deuxième partie de Cap Sport. C'est sur les bords du lac que se tiennent ce week-end les championnats suisses de tennis de table. C'est à la Riveraine. Plusieurs régionaux sont engagés à l'image de Sandra Rapula, Oxane Rebeté, Gaël Vendée, Johan Rebeté, Kylian Moreno et puis Julien Merki.
Le tennis de table est bien souvent associé à un simple loisir, pas vraiment à un sport. Sarah Massy s'est demandé pourquoi en questionnant Julien Merki.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en Suisse qu'on a cette image-là aussi, peut-être parce qu'on n'a jamais vraiment eu de gros résultats internationaux. Mais par contre, dans d'autres pays, si on prend par exemple rien que l'Allemagne ou la France, qui sont juste à côté de nous, qui sont nos voisins, c'est vraiment un sport reconnu. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent vraiment que c'est un sport très exigeant. Et c'est vrai qu'en Suisse, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas du tout cette image-là. Donc notre but, ce serait vraiment d'essayer de montrer une autre image et que les gens commencent à penser autrement.
Comment vous expliquez qu'on n'ait pas la même image qu'en Allemagne, par exemple, hein ? C'est quoi qui fait que...
À mon avis, ce sont uniquement les résultats internationaux qui jouent là-dedans, parce qu'on va beaucoup plus aimer un sport quand notre pays a beaucoup de succès là-dedans. Et c'est vrai qu'ils ont aussi une grande, grande masse de joueurs avec des grosses centres d'entraînement. Et c'est vrai que les gens, ils sont déjà un peu plus proches de ce sport que ce qu'on peut l'être ici.
Donc c'est un peu la pression pour vous. Vous devez un peu remonter l'image de ce sport, c'est ça ?
Voilà, exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis ce qui est vraiment bien, là, c'est qu'on est 3-4 jeunes à vraiment maintenant monter. Et on monte ensemble. Et puis on va essayer de changer ça tous ensemble.
Quelle est la place du tennis de table, plus spécifiquement dans l'arc jurassien ?
Je pense que ça a pris pas mal de place ces dernières années, justement parce qu'on a eu pas mal de joueurs et qui sont arrivés en même temps, en fait. Donc on a eu d'un coup en groupe, vraiment, aussi avec des deux Lémontins, où on a commencé à avoir des résultats, on s'est entraîné ensemble et on est monté ensemble. Donc je pense que maintenant on a une belle équipe et c'est vrai que ça commence à prendre de plus en plus de place.
Quand on parle du tennis de table, hein, on a l'impression que c'est un sport de niche. Est-ce que c'est frustrant en tant que joueur ?
Non, pas vraiment, parce que finalement si je pratique le tennis de table, c'est pour moi, parce que je sais que ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je trouve que c'est vraiment un beau sport. Et après oui, ce serait bien que les gens le voient différemment, mais finalement ce qui m'importe, c'est comment moi je le sens et Ouais, comment je me sens quand je joue?
Est-ce qu'il y a des perspectives pour un jeune joueur dans l'arc jurassien par rapport au professionnalisme? Ou est-ce que forcément il faut s'exiler? Est-ce qu'on peut rester ici?
C'est vraiment très compliqué, je pense, en restant ici. Après, en tant qu'entraîneur, c'est possible. On l'a vu avec notre entraîneur Christian Mignot qui est arrivé. Maintenant, il est entraîneur professionnel. Après, c'est vrai qu'en tant que joueur, le mieux, ce serait quand même de partir, rien que pour avoir d'autres styles d'entraînement et puis aussi d'autres infrastructures qui sont beaucoup plus importantes à l'étranger.
Mais on voit quand même que ce sport s'est beaucoup professionnalisé ces 5-6 dernières années en Suisse, dans l'arc jurassien.
Oui, alors c'est sûr. Mais de là à ce que nos joueurs puissent devenir professionnels, je pense qu'il y a encore un immense pas à franchir. Et à mon avis, ça ne va pas être fait dans ces prochaines années. Il y a vraiment encore trop de différences, même si on prend les tout meilleurs au niveau suisse. Ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec ça, donc c'est vraiment très très compliqué en Suisse.
Pourquoi est-ce qu'on peut dire que les structures, malgré tous ces efforts, elles ne sont pas suffisantes encore dans la région?
Si, je pense que ça tend justement à le devenir. Après, c'est toujours compliqué parce que pour être professionnel, il faut aussi avoir un très bon niveau à l'international. Et à l'international, on est encore loin derrière finalement. Donc c'est vraiment ça qu'il faudrait réussir à changer et puis intégrer, qu'il y ait beaucoup plus de joueurs par exemple dans le top 100, voire même maintenant dans le top 50, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et finalement, il y a des joueurs qui sont payés en Suisse, mais ça ne suffit pas pour vivre.
Vous, votre objectif, dans l'idéal, ce serait quoi?
C'est vraiment de continuer à aimer ce sport et à continuer à progresser. Après, je sais que devenir professionnel, surtout maintenant à mon âge, avec les résultats que j'ai, ça ne va pas être possible, peut-être en tant qu'entraîneur, mais pas en tant que joueur. Mais c'est vraiment continuer à faire ce sport et aimer à le pratiquer, en fait.
Vous l'aurez compris, le tennis de table qui fait gentiment son trou dans l'arc jurassien, il est en pleine évolution ces dernières années, les structures qui bougent aussi. Écoutez justement à ce propos Christian Mignot, il est responsable technique de ces championnats de Suisse, et puis il porte un regard un peu sur l'évolution de ce sport dans la région.
C'était peut-être le cas au niveau de la performance. Au niveau de la masse, on avait un sport qui stagnait à peu près. Ce qui a changé, c'est qu'on a eu des jeunes peut-être qui avaient peut-être plus envie de s'entraîner. C'était une notion qui peut-être n'existait pas trop avant par rapport à la jeunesse. Il y a eu aussi une professionnalisation au niveau de la structure d'entraînement, puisque certains pouvaient maintenant s'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine. Ça, c'est la deuxième chose.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Non. Avant, on dépendait déjà des disponibilités de salles. Donc, sachant que un club, s'il a 2 ou 3 fois par semaine la salle, c'est assez, c'est vraiment très bien. Il a été mis en place, en tout cas au niveau de Neuchâtel, une structure qui permet à des jeunes de s'entraîner dans différents clubs, ce qui permet d'avoir plus de créneaux horaires pour s'entraîner. Voilà. Au-delà de ça, on a un local permanent, même s'il n'est pas très grand, c'est le cas de le dire, hein, mais qui permet des entraînements individuels avec certains, selon leur disponibilité avec l'école ou leurs études.
Et sur le Jura, ça s'est aussi développé?
Je sais qu'il y a un travail ils essaient de mettre en place des nouvelles structures d'entraînement, notamment à Moutier, Delémont, Courfèvre aussi, je crois. Mais je sais qu'il y a une réflexion pour essayer d'améliorer. D'ailleurs, Kylian Moreno, qui participe au championnat suisse, est le premier fer de lance de la nouvelle structure d'entraînement. Sachant qu'aussi Roxane Rebété, qui joue à Côte-Peuzeux, a été formée à Moutier.
Est-ce qu'on pourrait imaginer de développer, ou est-ce qu'il y a des projets de développer ce sport dans l'arc jurassien pour que justement ces joueurs ne doivent pas s'exiler à Genève, voire même à l'étranger?
Moi personnellement, donc, parce que je les entraîne depuis qu'ils sont petits, moi l'idée c'est, entre guillemets, s'ils restent pas dans la région, c'est pas prioritaire. Je vais pas mentir. Ils s'entraînent toujours d'ailleurs sur Neuchâtel, hein, tous. S'ils doivent aller peut-être à Genève pour avoir une équipe, par exemple la Liga ou Ligue B, c'est égal. Une équipe qui leur permet d'affronter des joueurs peut-être, qui leur permettent de progresser, pour moi c'est pas bien grave. L'idée première c'est leur développement individuel, qui est bien plus prioritaire peut-être qu'un développement à l'interne d'un club. Trop souvent d'ailleurs, fut une époque où il y avait une certaine, comment dire, une notion de possession des joueurs, des jeunes joueurs qui plus est, de clubs qui disaient ouais, c'est, on l'a formé, c'est mon joueur. C'est pas une notion qui permet le développement, de mon avis, de notre sport. Si le joueur a peut-être des meilleures conditions de jeu, de niveau dans un autre club et dans une autre région, ben pour moi ça me dérange pas qu'ils aillent là-bas. Après, si on retrouve ceci chez nous et puis qu'ils reviennent chez nous, c'est super, mais c'est pas l'essentiel de mon point de vue.
Christian Mignot qui répondait à Sarah Massy. Les championnats de Suisse de tennis de table, c'est donc tout ce week-end à la salle de la Riveraine à Neuchâtel. C'est ainsi que l'on conclut Cap Sport. Vous pouvez retrouver cette émission en tout temps sur notre site internet. Et puis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle mouture. Très beau week-end.
Cap Sport, la rediff.